Bonsoir, il est 19h ce vendredi 17 mai 2024. Vous écoutez l'antenne du social sur Radio Libertaire 89.4. Cette émission a pour but de faire connaître le travail social autour de thèmes divers et variés. Elle donne la parole aux professionnels du travail social sur le terrain et aussi aux professionnels intéressés par le champ du travail social. L'émission a lieu le troisième vendredi du mois. Elle est animée par une équipe de travailleurs sociaux intervenant à tour de rôle en binôme. Ce soir, c'est Marie-Henriette. Bonsoir.
Bonsoir.
Et moi-même, Cécile. À la technique, l'indispensable et fidèle Guy. Merci, Guy, d'être là ce soir. Tout d'abord, nous allons présenter notre invité et Marie-Henriette va vous parler du thème de l'émission.
Alors oui, le thème de l'émission, il est, disons, l'aide à domicile. Et nous avons comme invité une salariée dans le secteur de l'aide à domicile qui travaille dans une entreprise, on va dire, d'aide à domicile. Marisa, tu développeras pour tout à l'heure, mais d'accord. Marisa, bonsoir et merci bonsoir. D'être bonsoir. Venue. Alors, le thème de l'émission, l'aide à domicile. Cette terminologie de l'aide à domicile est, je veux dire...
Dans le langage courant.
Dans le langage courant dans le champ du travail social. Alors, moi, je pense qu'en fait, qu'elle est employée dans deux sens. En premier, peut-être, enfin, je dis en premier de façon arbitraire, l'aide à domicile désigne le lieu d'exercice du travail social. Le travail social regroupant la profession d'aide aux personnes en difficulté. De façon large, il y a, je crois, 14 métiers répertoriés dans le Code de l'action sociale et des familles, par extension. Certains métiers qui n'y sont pas, quand même, sont considérés comme faisant partie du champ du travail social. Alors, le lieu d'exercice dans le cadre du champ du travail social, donc l'aide à domicile, donc au domicile des personnes en difficulté. Et dans ce cadre-là, beaucoup de professionnels de terrain exercent à domicile, mais pas exclusivement. On désigne l'aide à domicile en différenciant de l'aide qui est apportée dans les établissements, dans les familles d'accueil, dans les services, dans des centres divers de consultation, de centres sociaux, enfin voilà. Donc, l'aide à domicile désigne le lieu, enfin le domicile où s'exerce l'activité des travailleurs sociaux. Et par ailleurs, me semble-t-il, peut-être pour couramment le grand public, l'aide à domicile désigne en fait les interventions qui sont faites au domicile exclusivement, au domicile des personnes en raison de leur perte d'autonomie. Je pense que c'est ce sens-là auquel le public pense couramment. Exactement. Là, on va parler effectivement ce soir de l'aide à domicile, c'est-à-dire le travail effectué exclusivement au domicile des personnes parce que cette aide ne peut pas être dispensée ailleurs que au domicile. Voilà, c'est bien ça, Marisa.
Oui, si je peux rajouter, en fait, c'est aussi parce que ces personnes ne veulent pas aussi quitter leur domicile. Elles préfèrent, avoir des soins à leur domicile qu'aller dans des EHPAD. C'est justement cette concurrence en fait qu'il y a entre les EHPAD et l'aide à domicile.
D'accord.
Parce que l'aide à domicile, c'est vraiment quand le patient, lui, préfère rester chez soi, préfère recevoir des soins à son domicile et ne pas aller dans une maison de retraite ou alors...
Ailleurs, veut quitter. Alors, oui, on en reparlera peut-être tout à l'heure. Il y a ceux, effectivement, qui tiennent.
Un souhait que veut le... Il faut tenir compte aussi du souhait que veut le...
La personne, le client, oui. Voilà, on ne peut pas, normalement, sauf peut-être si elle est en danger vital, et encore, voilà. Il y a aussi la... Enfin, on y reviendra. La question peut-être du manque de place aussi, dans certains cas, des structures d'accueil aussi.
Il y a beaucoup de problèmes.
Hein,
vous, alors, voilà. Peut-être qu'on peut préciser aussi que dans les services qui... les services employeurs qui envoient des salariés travailler chez des personnes âgées en difficulté, il peut y avoir plusieurs sortes de professions, mais il y a ce qu'on appelle auxiliaire de vie, et ce qu'on appelle aide à domicile. Donc souvent on fait la confusion, on ne sait pas trop qui fait quoi, et puis quelquefois l'une va faire le travail de l'autre, enfin c'est assez complexe tout ça. Donc je peux juste dire quelques mots, on développera après, mais l'auxiliaire de vie, elle accompagne les personnes âgées ou en situation de handicap dans le cadre de la vie quotidienne, dans les actes de la vie quotidienne, y compris les soins d'hygiène et ce qui concerne la mobilisation. Donc les auxiliaires de vie, elles ont une formation, normalement, elles ont une formation spécifique. C'est encadré par des diplômes. Actuellement, ce sont des diplômes qui s'appellent assistant de vie aux familles, ADVF, ou le diplôme d'État AES, accompagnement éducatif et social. Alors, auparavant, parce que nous, on est des anciennes, on a plutôt comme vocabulaire de diplôme, c'était plutôt les BEP, carrière sanitaire et sociale, avec parfois la mention aide à domicile. Et puis, il y avait aussi le bac pro ASSP, accompagnement soins-services à la personne. Voilà, pour nous, c'est plus clair, ces histoires de diplôme. Mais l'assistant, l'aide à domicile, elle n'a pas de diplôme. C'est-à-dire qu'elle peut être embauchée sans diplôme. Alors après, rien n'empêche d'avoir une formation. Mais la différence avec l'auxiliaire de vie, c'est qu'elle se concentre sur les tâches quotidiennes. Alors, tu me diras si c'est bien ça, les travaux ménagers, les courses, le linge, le repassage.
Exactement.
Et les tâches administratives aussi, un petit peu?
Oui, si, à la demande aussi du
Du clarifier des courriers, des choses comme ça. Voilà. Okay. Mais bon, elles ont des qualités communes et ce sont des métiers qui sont différents mais complémentaires.
Effectivement.
D'accord.
Parce que c'est vrai qu'une aide à domicile va essentiellement, elle, toucher, on va dire, tout ce qui est dans le cadre de la maison. Oui. Mais l'auxiliaire de vie, elle, c'est comme vous l'avez bien précisé, ce sont les soins en fait. Elles peuvent même aller jusqu'à à la demande des infirmiers, donner des médicaments aux patients. Ce que ne peut pas faire l'aide, voilà, parce qu'elle n'a pas cette vocation.
D'accord.
Donc si j'ai bien compris, parce que je découvre, j'avoue, en gros, il y a deux métiers dans le cadre de l'aide à domicile. L'aide à domicile, à proprement parler, c'est un métier, et l'auxiliaire de vie, c'est ça? Non, tu as dit autre chose.
Non, c'est ça. Mais il y a aussi les aides ménagères qui interviennent.
Oui, il y a les aides ménagères qui interviennent aussi. C'est ça.
Aide ménagère, c'est oui, exclusivement le ménage.
Exclusivement les ménages, mais elles peuvent aussi, comme l'a souligné
Cécile,
elles peuvent également s'occuper des courses. Elles peuvent aller
d'accord.
faire des courses. Elles peuvent également juste promener la personne, si elle a la
d'accord.
possibilité de promener la personne. Si la personne est en capacité, elle, de se lever, c'est-à-dire que de marcher un petit peu. Ça dépend aussi, on va dire, de l'handicap de la personne qu'elle a en face d'elle. Si c'est un handicap trop lourd, elle ne peut pas s'en occuper comme une auxiliaire de vie.
Oui,
l'auxiliaire de vie, elle va avoir des gestes techniques qu'elle a appris en formation, qui pourront faire en sorte qu'elle puisse s'occuper justement de cette personne, alors que une aide ménagère, elle n'a pas.
Mais d'accord.
Elle est démunie par rapport à ça.
Oui,
s'il
oui.
arrive quelque chose
oui,
au
d'accord.
domicile, elle ne pourra pas. Voilà.
D'accord. Ok. Donc, Donc Marisa, toi, tu es donc dans, comment on va dire, dans un service d'aide à domicile. J'ai compris que c'était une entreprise, pas une association.
Oui, c'est une entreprise privée. C'est une entreprise privée, en fait, qui appartient au groupe Colisée International. On a demandé de ne pas citer, pardon. Mais en fait, c'est un gros groupe qui a une branche, en fait, du service à domicile. Elle a voulu également faire concurrence avec les autres.
Ah d'accord, c'est dans un grand groupe
multi, qui s'occupe des EHPAD.
Activités, en tout cas, voilà. Personnes âgées.
Des personnes âgées,
voilà, dans le secteur de...
international. Et elle a voulu faire, elle a une branche en service à domicile. Et c'est là où moi, je travaille.
D'accord,
justement.
D'accord. Donc, l'entreprise et les, ses financements sont uniquement... par les règlements des personnes suivies dans ce cadre-là. Il n'y a pas de subvention de...
Il y a aussi les subventions de l'État.
Il y a des subventions.
Oui, il y a des subventions de l'État. Mais c'est vrai qu'il y a un coût également. Si on veut rentrer dans ce service-là, pour les personnes extérieures, les bénéficiaires, il faut payer. Et effectivement. Mais ils vivent aussi des subventions que l'État aussi... on est payés par ça, en fait. Les subventions que l'État nous donne.
Ah, d'accord. Donc, il faut que ce soient des entreprises agréées et contrôlées par les pouvoirs publics.
Ah, tout à fait.
Oui, d'accord. Ok. Il faut une habilitation. C'est pas... Voilà. D'accord. Ok. D'accord.
C'est un marché qui s'est beaucoup développé, hein, la privatisation de ce genre de services. Ça s'est vraiment beaucoup développé depuis une vingtaine d'années.
Oui, effectivement. Ça, c'est en grand essor. Et je pense que même les prochaines années qui arrivent, ça sera même encore beaucoup plus développé, puisque là, on est vraiment dans, comment dire, l'appel de besoin. Les gens, on sent qu'ils en ont vraiment besoin. Nous, tous les jours, parce que dans mon service, moi, je suis dans le service d'astreinte. Nous, on est là pour réceptionner justement les... On est comme les urgences, on va dire, entre guillemets, et les pompiers aussi. Puisqu'on intervient en cas de fermeture des agences quand ils ferment, eux, le soir. Et je précise qu'on a 65 agences sur toute la France. Donc, nous, on travaille avec les 65 agences. Donc, le soir, quand elles ferment, c'est nous qui réceptionnons, en fait, tous les appels de France. Donc, on ne sait pas d'où ça peut venir. Ça peut venir de Marseille, ça peut venir de Lyon, ça peut venir de Paris, Toulouse, Cannes, n'importe où. Et on doit vraiment, régler la situation qu'on a au téléphone. Donc, ça peut être une personne qui ne peut pas aller travailler ce soir-là. Donc, il faut faire un aménagement pour pouvoir trouver une autre personne qui puisse aller à sa place pour aller la remplacer chez un client. Ça peut être un client qui n'a pas, qui a besoin d'aide, alors sur son planning, il n'a personne. Et à ce moment-là, peut-être il a besoin d'aide parce qu'il lui est arrivé quelque chose. Donc, on doit être en mesure de lui trouver quelqu'un dans l'immédiat, sans pour autant connaître les personnes, hein, puisqu'on les connaît juste au téléphone, on ne les a jamais vus. C'est pas nous qui les recrutons, donc c'est juste, de la bienveillance envers elles pour pouvoir leur demander si elles peuvent aller faire juste le travail au domicile du patient. Donc c'est vrai que c'est quand même un métier qui est quand même assez lourd. C'est quand même assez lourd parce que on est aussi amené à écouter, parce que le client aussi peut-être peut nous appeler juste parce qu'il veut parler. Il est peut-être en détresse, il n'a vu personne de toute la journée, il a juste besoin qu'on l'écoute. Ça peut être ça. Ça peut être aussi le fait qu'on puisse remonter aussi peut-être le moral de l'auxiliaire de vie ou de l'aide à domicile qui est au téléphone. Donc il y a tout ça, en fait. On a tous ces rôles-là à jouer aussi dans notre service. Et comme disait justement Cécile, c'est un métier qui a pris vraiment de l'essor ces dernières années, mais qui va en prendre encore plus, je pense, les prochaines années, puisque les personnes veulent plus rester aujourd'hui au domicile qu'aller en EHPAD, surtout avec les scandales qu'on a entendus avec les EHPAD il n'y a pas très longtemps. Donc les personnes préfèrent vraiment rester au domicile pour qu'on puisse s'occuper d'elles, et les familles les premières, hein, parce que les familles préfèrent aussi garder les personnes à côté d'elles, ayant une personne qui travaille aussi au domicile, mais qui puisse s'occuper de leurs parents et qui puisse aussi avoir de la visibilité pour qu'elles puissent voir aussi comment on s'occupe de leurs parents au quotidien.
Puis il y a aussi le coût des EHPAD, hein,
et c'est aussi
oui, forcément c'est aussi, les moyens
de effectivement, c'est ça. Tout le monde qui n'a pas aussi les moyens d'envoyer ses parents en EHPAD. C'est aussi ça.
Il y a aussi le fait que la population vieillit.
Oui. Hein,
donc,
oui.
J'ai noté quelques chiffres. En Europe, en 2020, il y avait 20% de la population qui avait plus de 65 ans. Et en 2050, il y aura une personne sur trois qui aura plus de 65 ans. Donc,
exactement.
Voilà.
Exactement. Bah oui, parce qu'il faut voir aussi que nous, aujourd'hui, qui sommes en train de travailler dans ces établissements-là, bah, c'est nous qui, demain, serons aussi ces personnes vieillissantes qui auront besoin aussi des coups de main des autres personnes. Donc, effectivement, ça, c'est quelque chose qu'il faut quand même mettre aussi en avant. Et c'est vrai que moi, personnellement, j'aimerais bien aussi peut-être... en vieillissant, avoir des personnes qui puissent aussi s'occuper correctement de ma personne lorsque j'aurai atteint l'âge. Donc oui, c'est quand même assez important ce genre de métier.
Il faut espérer que tout le monde ne va pas finir en perte d'autonomie. Il y aura aussi des personnes âgées en bonne santé qui se seront bien entretenues pendant toute leur vie, qui auront fait du sport, bien mangé.
Exactement.
Donc on peut espérer que
ceci,
tout
oui.
le monde ne sera
alors,
pas en
voilà, toi, tu vas vivre
dépendant.
Jusqu'à 120 ans. Mais oui, Marisa, donc, si j'ai bien compris, tu travailles dans... Une agence, c'est le terme, en astreinte,
en tant que coordinatrice.
Voilà, et quand les services de jour sont fermés.
Sont fermés.
Et donc, tu travailles à partir de quelle heure, alors très concrètement du coup,
on prend notre poste à 17h.
À 17h, voilà. C'est ça.
Du lundi au vendredi.
Oui.
Donc, la mission d'un coordinateur social chez nous, c'est on prend le poste à 17h.
Ouais.
Jusqu'à 22h, voire un peu plus. Ça dépend de. On peut avoir à la dernière minute des difficultés avec un client, ou alors avec une auxiliaire de vie, ou un interlocuteur au bout du fil. Il faut régler son problème. Donc on ne va pas fermer 22h pile.
Oui, je comprends.
Donc si la personne appelle à 21h, on va dire, je dis n'importe quoi, à 21h45, il faut lui trouver une solution jusqu'à ce qu'on parte, en fait. Donc, ça peut durer peut-être un peu plus longtemps. Nous, il nous arrivait où on fermait à 22h, on nous appelle peut-être à 21h58. Il y a un souci. On est obligé de le régler peut-être jusqu'à 23h. Hein. Mmh. On va rester là pour trouver une solution. Ouais. On ne peut pas laisser la personne comme ça. C'est en fait ça notre rôle. Alors, c'est du lundi au vendredi. C'est de 17h normalement à 22h. Et le week-end et jour férié, c'est de 7h du matin jusqu'à 22h.
Et les horaires des salariés sur le terrain, qu'est-ce que c'est ? C'est jusqu'à 22h aussi ?
Alors, ça peut être un peu plus, parce que ça dépend. Parce qu'il y a des salariés, eux, qui peuvent commencer à 7h. Il y en a d'autres qui, elles, commencent un peu plus tard. Elles peuvent commencer peut-être, pour les personnes qui travaillent de nuit, elles peuvent commencer peut-être à 20h, 21h, 22h, et voir jusqu'à peut-être 7h du matin le lendemain. Donc, ça dépend des horaires et... également de la demande du client qu'elles ont.
Oui, ouais. Il y a beaucoup de salariés qui acceptent de travailler de nuit ?
Il y en a beaucoup qui acceptent, oui, parce que déjà pour elles, c'est un coût. Ça leur fait un peu plus d'argent, parce que le travail de nuit, c'est mieux payé. Mmh. Mais c'est vrai que dans certaines agences, on n'en aura pas du tout des salariés de nuit, alors que dans d'autres agences, on a beaucoup plus. Par exemple, je prends l'agence de Paris 16, ils ont beaucoup plus des personnes qui sont là la nuit, en fait. Et c'est vraiment beaucoup plus la nuit que les salariés travaillent qu'en journée. Voilà.
Et donc, alors pour... mettre en adéquation le besoin du client et ce que peuvent faire les professionnels. Donc, vous avez tout un fichier de renseignements.
Oui, bien sûr. Oui, bien sûr, parce qu'on travaille avec...
toujours alimenté par les agences.
Enfin, effectivement, voilà. C'est les agences qui doivent mettre à jour à chaque fois le fichier, que ce soit les coordonnées des clients, à chaque fois aussi remettre à jour également si le client il est en perte d'autonomie ou pas.
Oui, d'accord.
Tout ça, en fait, on doit le savoir nous, puisque nous ne connaissons pas les clients.
Oui, d'accord.
Donc, c'est en allant dans le fichier. Par exemple, quand il nous appelle, directement, il nous donne son nom. Il est sur telle ville. On va directement sur la fiche du client. Donc, on a tous les renseignements possibles. Et à partir de là, on peut savoir c'est qui on a au bout du fil et on peut résoudre sa situation. Voilà, on peut connaître c'est, comment résoudre sa situation. Peut-être si c'est une personne qui est tétraplégique, on va pas envoyer n'importe qui à son domicile. Il faudra quand même une personne qui est quand même assez d'expérience. Si voilà, si c'est juste pour comment dire un repas, on sait que n'importe qui peut aller faire un repas. Voilà, que ça soit une auxiliaire de vie ou bien juste une aide ménagère, elle peut juste aller faire son repas. Donc c'est vrai que c'est des choses auxquelles on doit faire attention. De ne pas envoyer n'importe qui aussi lors d'un remplacement. Parce que c'est, tout ça, c'est noté sur le fichier du client, normalement, quand les agences le mettent à jour. Oui. Et ça nous facilite aussi notre travail pour pouvoir envoyer des remplacements au domicile.
Mais si une personne âgée a besoin d'un lève, ça s'appelle comme ça, un lève malade, hein, les appareils là, oui, pour lever du lit et déplacer la personne sur sa chaise ou... Voilà, mais ça, il faut des compétences particulières, une formation particulière. Ce sont les auxiliaires de vie qui peuvent faire ça.
Ça, c'est pas toutes les auxiliaires de vie qui peuvent le faire. Il faut une formation. Il faut qu'elle ait fait une formation. On peut pas envoyer n'importe qui parce que l'élève malade, il peut se bloquer. Elle peut-être
se renverser.
Voilà, ou se renverser. Et ça, c'est très dangereux parce que là, il faut faire intervenir les pompiers. Et c'est pas souvent évident. La personne, elle se retrouve à terre le temps que les pompiers arrivent. Non, c'est vrai qu'il faut quand même des personnes qui soient quand même formées pour,
oui, parce
pour
que
ce genre de technique.
Ouais, ouais. Ça peut être dangereux pour, la personne et pour le travailleur qui aura essayé de faire la manœuvre.
Exactement, parce que il nous est arrivé plusieurs fois où les personnes nous appellent pour nous dire que oui, on m'a demandé d'aller faire un remplacement, mon agence m'a demandé d'aller faire un remplacement chez tel client, mais j'arrive, je trouve qu'il y a un élève malade, je ne sais pas comment on s'en sert. Alors nous, à distance, on peut pas les guider, en fait, parce que nous non plus ne savons pas comment faire pour lui dire que essayer de faire ceci, essayer de faire cela. Donc c'est vrai que c'est normalement dans ce genre de cas, il faut envoyer des personnes qui soient déjà formées pour ce genre de pratique. On peut pas tâtonner comme ça et envoyer des personnes au hasard. Vous pouvez juste pour remplir un planning, envoyer n'importe qui. Donc c'est des personnes normalement qui doivent être formées justement pour aller sur ce genre de terrain.
Donc la personne qui se rend compte qu'il y a un lève malade mais qui n'a pas la formation pour savoir s'en servir, elle est en droit de dire à son employeur, ben voilà, je suis pas dans la capacité de faire cet acte-là, il faut que m'envoyer quelqu'un de toute urgence pour... voilà, parce que si la personne a besoin d'aller aux toilettes, ou je sais pas, mais...
Ah, carrément, ouais, donc d'accord. La personne,
donc, c'est
elle...
C'est une priorité, ça.
Et c'est une priorité. Mmh. Et c'est même...
C'est même une obligation.
C'est obligé... Si elle arrive au domicile et qu'elle trouve qu'elle ne peut pas faire pourquoi on l'a envoyé, c'est même une obligation d'appeler justement notre service.
D'accord.
Pour dire que voilà, je suis au domicile d'un patient, je ne peux pas m'en occuper parce que je n'ai pas les compétences. Faut pas qu'elle ait peur de le dire. Mmh. Je n'ai pas les compétences, je n'ai pas été formé pour. Donc, pour ne pas mettre la personne en danger, je préfère qu'on envoie une autre personne. Comme
elle va pas avoir peur qu'on la traite d'incompétente. Et qu'on la vire.
Ben non, non, il faut surtout pas qu'elle ait peur de ça.
D'accord.
Parce que c'est justement là, il faut déjà qu'elle demande à avoir une formation si elle veut s'occuper de ce genre de personnes, qu'elle demande à son agence une formation pour, et qu'elle puisse aussi, être franche, tout simplement, de dire que je n'ai pas les compétences pour, j'aimerais avoir ces compétences-là, il faudrait que j'ai une formation. Normalement, l'agence est là pour former justement leurs salariés. Ils sont là pour former les salariés.
Oui, c'est très très complexe effectivement de travailler auprès des personnes en manque d'autonomie. Il y a tous les degrés, les pathologies, aussi le logement, comment il est en tant que tel, les équipements,
voilà.
Tout ça, c'est très délicat entre ceux qui sont conçus pour des personnes à mobilité réduite et d'autres non. Enfin bon, il y a tous plein de facteurs en fait qui rentrent en ligne de compte pour évaluer quelle personne peut vraiment intervenir.
Et si je peux me permettre aussi, c'est aussi le rôle d'une coordinatrice, responsable de secteur, coordinatrice, on les appelle aujourd'hui responsables de secteur, mais c'est des coordinatrices sociales, d'aller régulièrement au domicile de ces clients-là,
oui,
qu'elles ont,
oui,
pour voir, évaluer justement leur pathologie, si ils sont toujours en manque d'autonomie, si ça n'a pas augmenté. Est-ce qu'il faut des appareils adéquats pour pouvoir les accueillir au domicile, s'il y a des choses qu'ils peuvent rajouter. Ça, c'est leur rôle normalement. C'est ce qu'elle doit faire. Elle doit faire des visites, des contrôles au domicile de leurs clients régulièrement pour avoir ce genre de
pour ajuster les aides.
Exactement.
Et est-ce que vous avez accès à des données, moi c'est peut-être confidentiel, mais à des données comme la grille agir, la grille de mesure d'autonomie des personnes?
Oui, au niveau
vous
des...
Vous avez accès à ces...
Les coordinatrices sociales de jour, elles ont accès à ça.
D'accord. Ouais. Donc elles travaillent aussi en partenariat avec les centres, les équipes médico-sociales.
Exactement, les assistantes sociales et tout ça. Puisque souvent, la plupart du temps, ce sont aussi les assistantes sociales qui envoient ces bénéficiaires-là dans des structures comme les nôtres.
D'accord.
Donc, c'est par exemple, la personne était à l'hôpital, elle va sortir d'hospitalisation, oui. Elle a besoin de quelqu'un pour venir s'occuper d'elle à domicile. Oui. S'ils connaissent qu'il y a l'entreprise, par exemple, telle entreprise au NELA, ils peuvent envoyer, par exemple, ces personnes à ces domiciles-là. Donc, ils vont rentrer en contact avec ces entreprises-là pour pouvoir...
D'accord. Ça, c'est le cas d'une sortie d'hospitalisation. Mm-hmm. Mais pour quelqu'un qui est tout simplement chez lui et qui voit qu'il se dégrade, est-ce que c'est plutôt les personnes elles-mêmes qui demandent ou plutôt la famille? Et comment elles ont connaissance des services d'aide à la personne à but lucratif parce qu'il y a aussi les associations qui font
peut-être
ça.
Peut-être aussi les centres d'action sociale. Enfin,
dans les mairies aussi, elles peuvent se renseigner.
Oui, il y a différents organismes qui interviennent dans le cadre de l'aide à domicile, peut-être. Enfin, je pose la question succinctement.
Oui, il y a des organismes
publics,
exactement.
Départementaux.
Oui,
privé,
oui.
Associatif et entreprise comme celle dans laquelle tu travailles.
Celle dans laquelle je travaille, il y a souvent le département qui intervient. Il y a souvent aussi les assurances. Parce que souvent, c'est les assurances aussi qui appellent pour dire qu'il y a tel client.
Les assurances
mutuelles, des choses comme ça.
Les caisses de retraite complémentaires.
Les caisses de retraite, voilà, exactement.
D'accord.
Donc, effectivement, soit c'est les familles qui font la demande parce qu'ils voient que peut-être le parent est en perte d'autonomie et qu'il pense que dans quelques mois, ils auront besoin d'une personne à domicile. Donc, ils font déjà la démarche auprès justement de ces organismes pour pouvoir mettre tout ça en place. Pour que le moment venu, justement, les choses soient faites de manière correcte et puis... sans précipitation. Donc,
On imagine que les équipements sont inférieurs aux besoins, en général. On peut le dire comme ça,
oui.
Marisa. Ouais.
Effectivement.
Ouais. Il faut attendre. Il faut souvent...
Il faut attendre, oui. Ça dépend.
Ça dépend de...
Ça dépend.
Ça dépend dans quelle ville ou
ça dépend dans quelle agence, ville. Parce que ça dépend aussi si, par exemple, les agences
en province?
Non, par exemple, si l'agence a déjà aussi du personnel.
Ah oui.
C'est aussi ça. Parce qu'il peut, il peut être aussi en manque de personnel. Mmh. Qu'il peut accepter une demande, mais il n'y a pas le personnel qui suit avec.
Oui, d'accord.
Donc, c'est souvent ça. Et le problème, justement, c'est de ne pas être transparent avec la famille, en leur disant que peut-être là, on a un manque de personnel. Essayez peut-être de vous adresser autre part. Ou bien peut-être, je peux vous donner le nom d'une autre agence pour pouvoir peut-être voir avec eux. Parce que, il y a une sorte de je ne sais pas comment je pourrais dire ça.
Ils ne disent pas tout ?
Non, ils ne disent pas tout. Ils ne disent pas tout. Et puis, avec la direction, en fait, il y a une sorte de pression qu'on leur met au niveau du chiffre d'affaires qui doit rentrer au niveau de... Il y a tout ça aussi. Donc, je pense que c'est tout ça qui joue aussi autour. Et c'est pas très cool vis-à-vis des familles. De pouvoir, si vous n'avez pas de personnel à ce moment-là, laissez-les aller regarder chez le concurrent, c'est tout simplement. On ne va pas attendre non plus que vous ayez recruté un personnel pour pouvoir avoir, comment dire, pouvoir accéder aux besoins de la famille. La famille ayant, comment dire, peut être à même elle-même de d'aller chercher des voies. Donc, soit d'attendre que vous ayez quelqu'un sous la main, ou alors d'aller chercher ailleurs. D'accord. Et c'est souvent ça aussi le problème avec ce genre de... Parce qu'ils veulent absolument garder le client, mais n'ayant pas de personnel aussi à leur assurer.
Voilà. Et c'est pour ça. Forcément, bah, écoutez, en ce moment, nous n'avons pas.
C'est ça.
Et nous vous conseillons d'aller vers telle ou telle autre organisation.
D'où ce qu'on parlait tout à l'heure, que souvent, c'est des... Au lieu d'avoir des personnes formées, justement, pour pouvoir aller là, ils mettent un peu des personnes par-ci, par-là, pour pouvoir jusqu'à... Ah,
ça, c'est encore autre chose.
Voilà.
Ah, oui. Oui, parce que tu as bien expliqué, non. effectivement, que ça demande des compétences.
Des compétences, effectivement.
Déjà techniques, importantes. Hein, je me demandais, pour vous qui travaillez au niveau de l'administratif, de rechercher des professionnels en fonction des besoins du client. Vous avez eu une formation quand même pour comprendre les besoins du client, le type de professionnel adapté.
C'est une formation sur le...
les coordinateurs.
Oui.
Ah mais non, nous, on n'a pas eu de formation.
Ah bon?
On n'a pas eu de formation. Moi, ça va faire 8 ans que je travaille dans ce domaine-là. Je peux vous dire que la formation, on n'a pas eu... on a eu une formation au niveau du logiciel dans lequel nous travaillons, mais au niveau, client et... Non, on n'a pas eu.
Non, sur les pathologies.
Pathologies, non, justement.
Parkinson,
on en a demandé plusieurs. On en a demandé plusieurs.
Le lève malade, qu'est-ce que c'est? Vous en avez vu?
Si vous voulez, c'est nous qui avons appris sur le tas, en fait. On apprend sur le tas et c'est nous qui allons nous renseigner à côté. Parce qu'en face, on a peut-être une demande. Et lorsque la personne raccroche, on dit « Mais c'est vrai, qu'est-ce que c'est un lève malade ? Il faudrait peut-être qu'on aille regarder. » Et c'est comme ça qu'on apprend. La pathologie de tel client, on ne connaît pas. Il faut qu'on aille regarder. Mais venant de notre direction, on n'a jamais eu de formation. Et c'est ce qu'on a souvent reproché justement à la direction, de ne pas nous avoir donné de formation. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui. Ils sont en train de remettre ça
au moins une journée par-ci par-là.
Voilà,
pour.
Ah, d'accord. Mais bon, vaut mieux tard que jamais. Mais là, en ce moment, ils sont en train de le faire. Mais c'est ce qu'on leur a justement reproché depuis des années.
Tout à l'heure, on parlait de la différence entre auxiliaire de vie et aide à domicile. Donc, il y a des aides à domicile qui arrivent sans diplôme, sans avoir fait ni de CAP, ni de. Voilà, aucune formation concernant l'aide à la personne. Et qui sont, est-ce qu'elles sont jetées comme ça au domicile de la personne ou est-ce qu'elles sont accompagnées par, est-ce qu'elles ont une espèce de parrainage pendant quelques jours avant de démarrer seules quoi.
Ben c'est vrai que nous, pour certaines qui ont commencé, je vais vous donner mon cas, tout simplement, parce que c'est vrai que moi j'ai aucune compétence dans le service à domicile, je suis vraiment venue là par hasard. Et j'ai commencé comme auxiliaire de vie. À l'époque, on disait auxiliaire de vie, alors que je n'avais pas de diplôme d'auxiliaire de vie.
D'accord.
Donc, j'ai été formée sur le tas, en fait. C'est une collègue avec qui j'ai fait 2 jours chez un patient. Et au bout du 3e jour, il disait que j'étais apte à aller sur le... Voilà. Donc, et la plupart d'aujourd'hui également des collègues qui sont sur le terrain, il y en a beaucoup qui sont comme ça. Nous, au téléphone, quand il y a certaines qui nous appellent, elles nous disent « Oui, mais mon binôme n'est pas encore là. » Mon binôme, c'est celle qui, justement, qui forme, en fait, la personne. Et à un moment donné, la personne est autonome, en fait, chez le patient. Mais c'est vrai que c'est la formation, on ne l'a pas en tant que telle. C'est peut-être maintenant qu'ils ont commencé les formations, il n'y a pas très longtemps, mais c'est vrai qu'au départ, on apprenait comme ça sur le tas.
Et en ce qui concerne, bien sûr, il y a des compétences sur les actes, mais il y a aussi la relation humaine. Parce qu'on a parlé tout à l'heure des compétences, mais il y a aussi les qualités qu'il faut avoir.
Oui,
il faut savoir écouter, il faut être dans l'empathie. faut avoir sûrement beaucoup de patience.
Ah, oui,
tant de patience.
Mais si vous tombez sur sur quelqu'un qui a peut-être une personne âgée qui est déprimée, qui a plus envie de rien, qui a pas envie de manger, ni de se lever, ni de s'habiller. Enfin, voilà, un peu difficile. Peut-être à juste titre. Hein, après tout, c'est son droit de plus rien vouloir. Hein. Mais comment vous êtes formé pour réagir à ce genre de comportement? Parce que voilà, qu'est-ce que vous pouvez faire? Forcer la personne? Non, c'est pas
on
possible.
Peut pas, hein, non, justement, si on force la personne, justement,
c'est
la maltraitance. Et c'est l'emmener justement à ne pas vouloir de service. Donc on va essayer de l'enfermer aussi dans sa bulle, et c'est pas ça en fait. Il faut,
ça va la braquer
effectivement. Donc et ça, moi je déplore, parce qu'on a souvent ce genre de personnes aussi qui nous appellent, que oui, je veux faire manger telle personne, mais elle veut pas manger. Mais faut patienter, c'est quand même une personne qui a un certain âge, faut savoir comment s'y prendre avec elle, faut essayer de la madouiller comme un enfant en fait. Faut ce genre, comme vous dites,
il faut avoir le temps, justement.
Et comme en fait, je pense qu'il y a aussi ça aussi dans le service à domicile, elles ont un certain nombre d'heures qu'elles doivent faire chez un patient, donc elles doivent faire vite pour aller chez un autre. Bah non, en fait, c'est ça qui est quand même déplorable dans ce métier. Parce que quand on arrive chez une personne qui est souvent atteinte d'Alzheimer, elle prend du temps déjà pour vous reconnaître, vous qui arrivez. Faut aussi avoir le temps, essayer aussi de la madouiller pour qu'elle peut-être elle puisse aller à table, ou bien accepter justement votre service. Ça prend du temps. Même si sur le papier, sur le planning, c'est marqué 45 minutes, tu ne peux pas faire 45 minutes, ce n'est pas possible.
Mais sur le planning, il y a marqué les tâches détaillées que vous devez faire.
Oui, effectivement, il y a les tâches qui sont normalement détaillées. Souvent, si elles sont à jour, hein, parce que souvent, ce n'est pas aussi à jour.
Oui, parce qu'il faut du temps aussi pour
exactement. Donc, c'est détaillé les missions qu'elles doivent faire, et puis le nombre d'heures qu'elles doivent faire chez la personne.
Mais est-ce que la tâche papoter est comprise dans cette liste? Parce que c'est important de pouvoir papoter avec quelqu'un.
Mais ma grande surprise, moi aussi, je ne savais pas, mais c'est vrai qu'il y a des missions qui sont essentiellement pour tenir compagnie. Oui, tenir compagnie à la personne. Voilà. Donc, il y a des personnes qui sont autonomes, elles veulent juste, en fait, juste qu'on leur tienne compagnie, passe du temps avec elles. Oui. Il y a aussi ce genre de mission.
Ça doit être agréable, ça.
C'est très agréable, ça a l'air.
Et vous disputez ce genre de mission, non?
Elle est liée au service administratif. Elle
ah, oui.
Mais c'est...
Non, ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que oui, c'est vrai qu'il faut beaucoup de compétences, mais face à des difficultés psychologiques ou neurologiques, c'est sûrement pas évident quand on n'a pas du tout de formation.
Non, c'est pas évident. C'est pas évident. C'est vrai que, surtout en plus, si c'est la première fois d'aller chez cette personne, parce que bon, c'est vrai qu'il y en a qui n'ont pas eu ces compétences. Enfin, c'est au fur et à mesure d'aller chez ces personnes-là qu'après, elles ont appris, et puis elles savent comment gérer maintenant ces personnes. Mais quand c'est la première fois que vous allez chez cette personne, par exemple pour un remplacement, et que la personne elle n'est pas, comment dire, elle se braque, elle veut pas de vos services, et faut savoir comment la prendre. C'est pas évident du tout. Souvent nous, ce qu'on fait quand c'est comme ça, on essaye nous de la calmer au téléphone, on essaye de discuter avec la personne, mais si on voit qu'elle est vraiment, elle persiste vraiment, on appelle la famille si elle a de la famille. Mais le fait en fait, c'est ne pas de la braquer. Donc si la personne ne veut pas qu'on intervienne à son domicile et qu'elle devienne agressive, on préfère dire à la personne de partir ou de patienter dehors. Le temps qu'elle se calme, de ressonner et puis de voir si la personne accepte son service. Mais c'est vrai que le but, ce n'est pas que la personne justement puisse se braquer pour ne pas qu'elle puisse revenir peut-être la prochaine fois. Donc vraiment, il faut savoir comment prendre aussi ce genre de personnalité, c'est ça.
Et est-ce qu'il y a des personnes qui sont très très exigeantes et tout d'un coup vont vouloir des choses qui ne sont pas incluses dans la liste? Ça arrive.
Oui, ça peut arriver. Ça peut arriver que, par exemple, on va pour une mission et que peut-être la personne qui est en face de nous, la cliente, elle veut peut-être autre chose et qui n'est pas sur la mission de la personne. Maintenant, ça, c'est la personne qui est sur place, c'est à elle de voir si elle peut faire ça en plus. Donc oui, ça peut arriver.
Oui, c'est extrêmement complexe. C'est et pour vous d'abord.
Oui, pour nous aussi.
Pour trouver, voilà, c'est ça doit être stressant quand même maintenant.
C'est quand même stressant. C'est vrai que moi, ça fait 8 ans que je fais ce travail, mais il faut aimer l'humain en fait, hein, je pense. Il faut aimer l'humain, sinon on peut pas faire ce boulot-là.
Bien sûr.
Parce que c'est vrai qu'on a souvent beaucoup des gens qui déversent leur haine aussi au téléphone, hein, parce qu'elles ne sont pas satisfaites du service. Il y a des personnes qui sont, il faut dire la vérité, qui sont méchantes aussi. Elles ont des mots très méchants, très durs, mais il faut savoir les prendre. On se dit, on va aussi avoir cet âge-là. Peut-être que on va être aussi en perte d'autonomie comme ça. On ne voit pas pourquoi, voilà. Il ne faut pas prendre ça pour soi, en fait.
Bien sûr, un déplacement.
Également.
Bien sûr, il faut ça. Bien que... Il y a beaucoup de personnes, j'imagine, qui sont seules.
Il y en a beaucoup qui sont seules et qui ont juste besoin. En fait, le fait que la personne vienne seulement à leur domicile pour les aider, pour elles, c'est déjà beaucoup, en fait.
Ça permet de rompre la solitude.
Oui, voilà. Elles ne voient personne de toute la journée. Donc, c'est le seul contact qu'elles ont de toute la journée. C'est vraiment quelque chose. Ouais.
C'est quand même difficile.
Difficile, c'est très difficile. Ouais, il faut le dire. C'est difficile.
Un euphémisme, quand même. Oui, même, j'imagine, des aides à domicile, enfin... Elles ont même, c'est elles qui ont la clé pour les personnes ne peuvent.
Oui, il y en a qui peuvent pas se. Il y en a qui peuvent pas.
Se déplacer.
Ils peuvent pas se déplacer. Effectivement, effectivement, c'est elles qui ont les clés pour pouvoir ouvrir. Souvent, ce que la famille, la famille a souvent. Il y a souvent quand il y a certaines familles qui peuvent, elles mettent un sorte de boîtier à clé ou comme ça, quand c'est des différentes personnes qui viennent à différents horaires. Comme ça, elles peuvent se partager les clés, et puis avec même les infirmiers qui passent souvent se partager les clés.
Parce qu'en fait, il y a plusieurs personnes qui interviennent aussi.
Exactement.
Effectivement, infirmières,
aides-soignantes,
oui.
Kinés.
Exactement, il y a souvent les kinés.
Infirmiers.
Donc, il y a souvent tous ces professionnels-là qui se rendent compte. Donc on essaye d'aménager les horaires pour pas que, il y a trop de bousculades aussi.
Il y a cette question-là aussi, effectivement, de coordonner avec les autres professionnels.
Oui, effectivement.
Autant vous pouvez avoir des horaires fixes, autant un infirmier, il peut peut-être penser passer à 8 heures, mais en fait débarquer à 10 heures.
Parce que ça dépend aussi si il n'a pas terminé avec le client ou il arrive quelque chose avec lui.
Ou il a fait une douche qui n'était pas prévue.
Exactement. Donc
il y a ça. C'est difficile, Une coordination stricte.
Non, on ne peut pas.
C'est impossible
dans le service.
Puisque personne ne sait le temps qu'il va mettre.
Non.
Pour certains côtés, heureusement quand même.
Ça, c'est vraiment pour les personnes qui sont vraiment autonomes, où on sait qu'il y a quelque chose. On peut mettre quelque chose de fixe.
Oui, d'accord.
Mais pour
quand
les personnes, non, non.
Voilà, mais autrement,
on ne peut pas. Oui, c'est vraiment... Ça peut être aléatoire. Parce que nous, on a souvent vu des collègues de chez nous, parce qu'elles sont en manque, justement, ou bien elles sont en manque de personnel. Elles sont obligées peut-être de faire manger la personne à quelle heure? À 17h, au lieu de 19h d'habitude. Donc là, c'est à la personne aussi qui est sur le terrain, peut-être d'adapter, d'essayer de jongler peut-être ses horaires, essayer de voir peut-être avec... il y a tel qui est peut-être plus autonome par rapport à tel client. Je vais essayer de passer avant chez l'autre et après je passerai. Ils essaient d'adapter comme ça pour
assurer, etc.
Exactement.
Il faut jongler, bien entendu, avec les besoins des différentes personnes dans la journée pour faire
c'est
au mieux. Il y a une liberté là-dessus des professionnels pour s'organiser.
Elles sont obligées de s'organiser comme ça parce que sur le planning, c'est mis comme ça. La personne peut-être au domicile, elle exige qu'on vienne à une certaine heure, mais comme je vous ai dit tout à l'heure, une personne par exemple qui veut que le repas soit pris à 19h et qu'elle a une autre personne qui doit être à 19h15, c'est impossible. En 15 minutes, on ne peut pas finir un repas, on ne va pas faire manger les humains comme des oies, c'est pas possible. Donc on est obligé quand même de prendre son temps et après le repas, il y a quand même aussi, faut la faire digérer, faut essayer de voir si tout va bien avant de partir. Donc on peut pas non plus partir comme ça, vite et la laisser. Non. Donc on peut pas suivre les horaires qui sont sur le planning. C'est pas c'est pas possible.
Oui, d'accord. Donc, ça c'est reconnu. C'est évident.
Et en ce qui concerne un acte plus particulier qui est la douche, qui est habilité à faire
la toilette,
à prendre une douche à quelqu'un?
Alors normalement c'est les auxiliaires de vie.
Auxiliaires de vie.
C'est les auxiliaires de vie qui sont à même de faire la toilette aux personnes au domicile. Bon.
Parce que ça prend du temps.
Ça prend du temps, oui. Et surtout si vous tombez sur des personnes qui n'ont plus d'autonomie, donc il y a une certaine technique que vous devez utiliser pour pouvoir lui faire prendre sa douche. Si elle doit s'appuyer sur vous parce qu'elle n'a plus du tout d'équilibre, on ne peut pas prendre le risque que ça soit une personne qui fasse du ménage, qui aille faire la douche. C'est pas possible.
Et comment elles arrivent à accepter le fait de partager cette intimité avec quelqu'un quand vous démarrez une intervention comme ça?
Souvent, c'est difficile. Hein. C'est vrai qu'elles nous disent souvent, les auxiliaires de vie, que quand elles vont souvent chez certaines personnes, si ça fait des années qu'elles vont chez elles, ça va. Mais si c'est pour un remplacement, justement, souvent la personne a du mal à accepter. Parce que, elle ne vous connaît pas, vous arrivez, vous débarquez. Souvent, en plus, l'agence ne prend pas le temps de prévenir cette personne pour dire que aujourd'hui ça ne sera pas telle, mais ça sera une autre personne. Bon, souvent, elles peuvent oublier aussi de prévenir le client. Donc, quand elles voient débarquer la personne le matin ou bien dans la soirée pour pouvoir lui faire la douche, elles sont souvent dans le refus. Et comme je vous disais tout à l'heure, maintenant, c'est dans la négociation, il faut essayer de flatter, de chercher les moyens pour pouvoir la faire entendre raison pour qu'elle aille à la douche. Mais c'est vrai que ce n'est pas évident. Hein. Donc, qu'on est déjà habitué à une personne, à des personnes qui viennent chez vous de façon régulière et qu'on voit d'autres personnes qui débarquent comme ça, ce n'est pas évident de les accepter. Surtout à un certain âge, c'est pas du tout évident.
Oui, les personnes ne sont pas forcément prévenues des changements, de dernière heure. J'ai compris peut-être souvent, j'en sais rien, il y avait beaucoup de turnover chez les aides à domicile, on va dire. Ouais, une personne me disait que en 6 ans d'expérience d'aide à domicile qui venait chez une parente paralysée, en 6 ans, il pensait qu'en gros qu'il y avait 3 passages par jour d'aide à domicile, qu'il avait dû avoir affaire à 300 personnes différentes.
Non, mais c'est possible.
En 6 ans.
C'est très possible. Hein. Parce que, déjà, faut le dire, hein, le service à domicile, c'est un des secteurs qui est le plus mal payé. Hein.
Alors justement, parlons gros sous. Est-ce qu'on peut avoir une idée du salaire? Je suppose que quelqu'un qui n'a pas de diplôme est payé au SMIC?
Oui.
Et alors quelqu'un qui a un diplôme?
Quelqu'un qui a un diplôme, elle est un petit peu au-dessus du SMIC, si je ne me trompe pas.
D'accord. Donc, les auxiliaires de vie,
Les auxiliaires de vie, ouais. Donc,
ce qui n'est pas suffisant par rapport à toutes les tâches.
Elles sont obligées justement d'avoir deux boulots. Donc elles vont aller peut-être comme chez nous, par exemple dans notre entreprise, elles vont travailler, mais elles vont aussi travailler peut-être dans deux ou trois autres, pour avoir un salaire quand même assez décent.
Parce que
c'est-à-dire qu'elles vont cumuler des horaires
chez
dans une société l'équivalent d'un plein temps.
Elles sont mensualisées quand même, elles ont un salaire pour 35 heures.
Il y en a qui n'ont pas tout un salaire pour 35 heures. Elles demandent d'avoir un salaire pour 35 heures.
Ça serait l'idéal. Elles sont à temps partiel alors.
Mais il y en a beaucoup qui sont à temps partiel.
Elles ont des contrats à durée déterminée alors, c'est ça?
Il y en a qui ont des contrats à durée indéterminée.
À durée indéterminée, mais à temps partiel.
Parce que quand elles viennent à l'embauche, moi, j'en ai eu justement la dernière fois avec qui je discutais, on leur a promis 108 heures. Et elles se retrouvent à travailler pour 56 heures. Donc, en fait, elles doivent aller chercher justement les autres heures ailleurs.
Mais donc, pourquoi on leur promet 108 heures si ils savent qu'ils pourront ne donner que 50 heures?
Parce qu'il n'y a pas de...
Il n'y a pas assez de clients.
Soit le client, mais c'est aussi ça aussi avec le service à domicile, parce que vous pouvez perdre aussi les clients, soit ils rentrent en EHPAD.
Ou ils ne sont pas contents,
ils changent de service tout simplement. Bon, il y a tout ça. Donc,
parce que quand ils s'engagent pas pour une durée.
Non, ils peuvent partir. Ah oui, ils peuvent partir à n'importe quel moment.
Ah bon.
Ils peuvent partir à n'importe quel moment, sauf qu'après il y a un préavis.
Parce que sinon, si elles savent qu'elles vont être hospitalisées, dans un mois, elles peuvent prévenir à l'avance la société qu'elles n'auront plus besoin de quelqu'un pendant,
ils peuvent prévenir comme ça. D'accord. Ils peuvent prévenir. Maintenant, c'est à la société d'aller trouver peut-être d'autres clients à l'auxiliaire de vie. Et si l'auxiliaire de vie aussi, pendant ce temps-là, elle attend, elle n'a pas de clients, elle est obligée d'aller chercher...
Mais c'était étonnant, ça, de dire trouver d'autres clients. C'est-à-dire aller à la pêche aux clients.
C'est ça.
Mais vous les trouvez où? Vous allez frapper aux portes des hôpitaux pour dire « Oh, on est là !»
Non, mais c'est carrément ça.
Ne vous oubliez pas quand vous avez une orientation de sortie à faire.
C'est ça, en fait. Chez les assistantes sociales, dans les hôpitaux. Elles font du commerce, elles sont commerciales aussi, en quelque sorte.
Et elles donnent des cadeaux?
Comment?
Je plaisante. Les
aides à domicile ou auxiliaires de vie qui ont un contrat de travail à temps partiel, de temps d'heure. Ils ont un contrat à durée indéterminée.
Oui, normalement, quand elles viennent à l'embauche, c'est indéterminé.
Donc, l'employeur, je ne sais pas, je dis peut-être une bêtise, est tenu...
Il lui a annoncé 108 heures, donc il note 108
heures. Il est obligé de payer 108 heures, même s'il n'a pas de boulot à lui donner pour 108 heures, sinon...
Normalement, il doit lui payer 108 heures. Il est d'accord avec moi. Sauf que, chez nous, ce qu'ils font, ils vont emmener l'auxiliaire de vie à re-signer un contrat, un avenant à la baisse.
D'accord. Et l'auxiliaire de vie ou l'aide à domicile sont obligés d'accepter, sinon il peut y avoir un licenciement économique.
Elle peut ne pas accepter, justement. Mais elles ne le savent pas souvent. Souvent, elles signent sans le savoir.
Ah oui, d'accord, parce que normalement, il y a une protection. Oui.
Parce que si moi, vous m'avez promis 108 heures, je viens lors de mon entretien, vous me promettez 108 heures. Moi, je ne vous ai pas demandé 56 heures. Je vous demande 108 heures, c'est à vous de me trouver les 108 heures. Moi, ce n'est pas que je ne veux pas travailler. C'est vous qui n'avez pas de travail pour moi. Donc, automatiquement, soit vous me payez les 108 heures sans avoir de clients, mais vous me les payez. Mais je ne signerai pas l'avenant à la baisse. Et la plupart du temps, justement, elles font tout, en fait,
parce que ce ne sont que des femmes, en général.
Oui, c'est ça.
Il y a quelques hommes, mais peu.
Ils sont très peu, les hommes. Ils sont très, très peu. Mais la plupart, dans l'ensemble de ce secteur, c'est beaucoup de femmes.
Mais soyons un peu médisants. Est-ce qu'une société telle que la vôtre pourrait faire des promesses tout en sachant qu'ils ne vont pas pouvoir les respecter et que, par exemple, promettre 108 heures et que...
Elles le font tout le temps.
Parce que du coup, ça attire du monde. On se dit, 108 heures, c'est déjà pas mal, peut-être que ça va passer à plus après.
Ils le font tout le temps. Justement, c'est ça le grand mal. Parce qu'on s'est rendu compte, nous-mêmes qui sommes de l'autre côté, on est dans l'administratif, et on a ces plaintes tout le temps, justement, des auxiliaires de vie au téléphone. Qui nous disent, moi, mon agence m'a promis tant d'heures, je ne fais pas ces heures-là. On m'a demandé de signer des avenants à la baisse. Pourquoi et tout? C'est vrai que nous, nous ne sommes pas, à même de les répondre par rapport à ça. Oui, parce que nous ne sommes pas directement liés avec elles. C'est vrai qu'elles se plaignent souvent. Donc, il y a des promesses qui sont faites. Par exemple, comme nous, quand on leur demande de faire des remplacements, c'est pour qu'elles soient des remplacements, c'est pour que vous ayez normalement vos heures sup, parce que c'est des heures sup qu'elles font.
Oui.
En plus de leurs heures qui sont déjà sur leur planning, c'est des heures sup qu'on leur demande de faire. Mais ces heures sup-là, en fait, elles ne les ont pas dans l'immédiat. Elles ne les ont pas dans l'immédiat. Donc, je ne sais pas, en fait, comment ils arrivent à jongler avec leur contrat et leur... en fait, c'est un gros trafic qu'ils font. Les heures sup ne sont pas payées dans l'immédiat, mais sont annualisées.
Ah oui.
Voilà.
Donc, plusieurs mois après.
Plusieurs mois après. Et attends, ça ne les arrange pas, parce qu'elles, si elles acceptent de faire des heures sup, c'est pour que... Voilà, je suis dans le besoin aussi, j'accepte. Mais pour que je sois payé à la fin du mois, au moins, mon salaire, il gonfle.
Donc, elles ont rendu service à l'employeur, mais elles n'ont pas
retour.
Je ne sais pas, je reviens sur cette question de contrat de travail. Il y a un contrat de travail signé au départ. Oui, c'est obligatoire.
Oui, c'est obligatoire.
Quand, surtout pour les personnes qui travaillent à temps partiel. C'est très précis, normalement, d'après mes souvenirs que j'ai quand je travaillais. Il faut que le nombre d'heures de travail soit spécifié. Même les jours et les heures de travail, en tout cas, ou alors c'est au choix du salarié, mais enfin c'est très réglementé pour justement protéger le professionnel qui travaille à domicile, le salarié qui travaille à domicile, de ne pas faire au-delà de ses heures sans être payé, enfin quelque chose comme ça, et que les horaires aussi soient bien identifiés pour qu'il puisse justement compléter son travail par ailleurs, voilà. Donc le contrat spécifie le nombre d'heures de travail mensuel, normalement.
Oui, normalement sur le contrat, voilà. C'est...
Et donc, si l'employeur ne peut pas donner du travail, mettons, pour 120 heures prévues dans le contrat... À mon avis, l'employeur est quand même obligé de payer le salarié au niveau de 120 heures de travail.
Il est obligé.
Mais voilà, donc tu as l'air dire à Marisa que ce n'est pas tout à fait ça qui se passe.
Ce n'est pas tout à fait ça qui s'y fait. Parce que voilà. Oui, normalement, il est obligé. Il est obligé. Si l'employeur a mis sur le contrat de travail 120 heures, il doit payer les 120 heures.
Ouais.
Mais justement, si les 120 heures ne sont pas respectées, il est obligé de faire un avenant.
Oui, avec l'accord du...
Avec l'accord, voilà.
Le salarié n'est pas...
C'est comme ça, en fait, elles se font arnaquer, les filles.
Et elle peut être prévenue du jour au lendemain
on peut lui dire le lendemain
demain,
de passer.
Demain, vous passez
pour un avenant, vous venez signer un avenant. J'ai rien demandé, moi. Moi, je sais que j'ai 120 heures sur mon contrat. C'est à vous de me trouver les heures. Moi, je veux travailler, en fait.
Alors ça, c'est dans le cas où l'employeur n'a pas assez de clients, pas assez d'heures à distribuer à ses salariés. Mais est-ce que ça arrive aussi que la personne aidée décide de partir au soleil chez sa cousine à Malaga ou à Miami, je sais pas, et parte 2 mois, 3 mois? Ça arrive aussi, il peut
parce
que du
aussi,
coup, ça fait baisser
pour les vacances,
ça fait baisser des heures.
Bien sûr.
Donc c'est réglementé, ça, les départs en vacances?
Par contre, je ne sais pas comment c'est réglementé, mais c'est vrai que il doit prévenir quand même à l'avance.
D'accord, pour que, il y a un délai,
voilà.
Oui, tu sais pas s'il y a un contrat établi au départ, entre la personne aidée
à quoi s'engage
et ton employeur.
Est-ce qu'il y a une espèce de contrat du client,
voilà, on va dire que le client et la structure employeuse.
Oui, je pense que normalement au départ, il y a quand même des clauses qui sont faites entre les deux.
Oui.
La responsable d'agence ou alors la responsable du secteur se déplace au domicile et ils mettent en bonne et due forme justement le contrat avant.
D'accord.
Avant que tout commence. Donc, je pense qu'il y a tout ça qui se met en place.
Tu n'en as jamais vu des conditions de prise de vacances.
C'est intéressant. Après, on imagine bien qu'il y a les aléas, notamment d'hospitalisation.
Oui, bien sûr.
Ça, c'est là-dessus.
Et puis, bon, il y a aussi le fait que c'est pas non plus tellement respecté aussi, parce que sur le contrat, il peut aussi être mis que justement la personne veut seulement, par exemple, on va dire, mission peut-être de repas, de courses et de ceci. Et que la personne, après, elle a juste peut-être le repas, mais elle n'a pas de courses. Il y a aussi ça qui doit être respecté aussi au niveau des contrats des clients. Donc, c'est vrai que nous, quand on a c'est justement les clients au téléphone et qui se plaignent, c'est que justement, il y a certaines choses qui ne sont pas respectées aussi sur leur contrat. Il y a certaines choses qu'ils ont peut-être signées avec l'agence, mais l'agence ne respecte pas l'engagement qu'ils ont pris aussi vis-à-vis peut-être aussi du client.
Et alors, Marisa, comment tu fais dans une situation comme ça, où tu as la plainte d'un client par rapport à une
prestation,
une professionnelle à domicile? Tu transmets, à ta hiérarchie,
Toujours. On est obligé. Nous, déjà, on est obligé de laisser des traces.
Oui.
Qu'on a eu l'appel d'un client ou d'une auxiliaire de vie qui a eu telle situation, tel jour, pour que déjà on laisse une trace.
Oui.
Et que ça soit réglé.
Oui.
Et que ça soit réglé, parce qu'il faut remonter justement la situation. Nous, on est là pour ça, le service d'astreinte, on est là pour ça. Donc, on remonte justement ce genre de situation. Et normalement, l'agence est à même justement, quand ils reviennent après leur week-end, on va dire lundi, ils ont normalement tout ce qui a été fait pendant le week-end ou bien dans la soirée. Et ils doivent, eux, justement, réagir par rapport aux situations qu'ils trouvent, parce que c'est par mail qu'on communique. Hein. On communique beaucoup plus par mail.
Oui, que normalement, ils ont tout ça. Voilà.
Donc, normalement, ils ont tout ça. On met en copie la direction quand on voit que vraiment c'est grave. Parce qu'il y a des clients qui sont restés souvent toute une journée sans manger, sans boire, sans ceci. On est obligé, nous, de remonter. On est obligé de remonter à la direction.
Ils arrivent à appeler ?
Ben, souvent, c'est les voisins ou c'est la famille qui appelle. Parce qu'il y en a qui ne peuvent pas appeler. Il y a certains clients qui ne peuvent pas nous appeler. Donc, ils sont obligés de faire remonter par la famille, des voisins, des amis, que voilà, toute la journée, il n'y a eu personne. La personne, elle est alitée, elle est restée sans personne. Donc, ça, c'est des situations qu'on est obligé de remonter jusqu'à la direction pour qu'il y ait réaction dans l'immédiat.
Et là encore, c'est dans le meilleur des cas, quand ils ont un voisin ou de la famille qui les a appelés pour prendre des nouvelles. Mais il y a aussi ceux qui n'ont personne.
Qui n'ont personne.
Ni voisins, qui sont isolés, qui n'ont plus de famille.
C'est souvent même. Et souvent même, il y a dans certains cas, justement, comme tu le dis, c'est souvent la personne, peut-être, qui a l'habitude de venir chez elle, qui va découvrir qu'elle n'a eu personne de toute la journée. Par exemple, si la personne qui a l'habitude de venir habituellement est peut-être absente ce jour-là, ils peuvent oublier de remplacer cette personne.
Ah oui, ça peut être un oubli du service.
Donc, ils vont rester toute la journée comme ça, et la personne va découvrir le lendemain, en fait, que Madame Telle n'a eu personne. Donc imaginez, surtout avec les jours qui arrivent, avec le soleil et tout ça, une personne qui n'est pas hydratée,
parce qu'on a l'impression que vous...
Donc c'est vrai que
vos services travaillent à flux tendu, tout le temps.
Tout le temps.
Quand tu es là, tu enchaînes...
C'est
les coups de fil, regardes le logiste...
Il faut être... pouvoir faire beaucoup de tâches à la fois.
Il faut 10 mains.
Parce qu'il y a le téléphone, il y a les messages qu'on doit aussi écouter. On ne doit pas louper un seul message, parce que si on loupe un seul message, peut-être que c'est une personne, justement, qui est en détresse. Donc ça peut être très grave.
C'est une sacrée responsabilité.
C'est vrai que c'est un métier qui est très, 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 très tendu.
Mais quand vous finissez à 22h, là, mais vous finissez pas, en fait, parce que dans la tête, vous devez penser à certaines situations, quelquefois, qui sont un peu critiques, non ?
Si vous
avez laissé quelqu'un...
Parce que c'est vrai qu'il peut aussi arriver qu'on ne trouve personne en remplacement. Personne en remplacement. Donc nous, il nous est déjà arrivé de faire appel même aux pompiers. Parce que, je vous dis, on travaille à distance. Il y a des fois où nous-mêmes, en tant qu'administratif, si la personne est à Paris et que c'est pas très loin, moi, je me suis senti obligé d'y aller, en fait. D'intervenir carrément.
Carrément, d'accord.
Si okay. c'est pas très loin, ou je sais que bon, je peux arriver dans les heures, voilà, j'y vais, une collègue y va. Mais si c'est une personne de l'extérieur qui est en province, souvent on appelle les pompiers. Et les pompiers, c'est pas leur rôle aussi d'aller faire manger une personne ou bien tout simplement aller la changer. Ça, c'est pas leur rôle.
Vous appelez les pompiers.
On appelle les pompiers, excusez-moi, est-ce que vous pouvez nous aider? Voilà, il y a un cas critique et tout, on peut pas laisser la personne comme ça en fait. Parce qu'il nous arrive d'appeler, 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 mais il n'y a personne qui nous répond pour pouvoir aller faire le remplacement.
Ah oui, c'est sûr que le soir, oui, vous ne pouvez pas appeler le SAMU, le... Enfin, non.
Bah, c'est ça.
Oui, j'imagine bien.
Ah non, non, eux nous envoient bouler, hein, parce qu'on les a appelés plusieurs fois, ils nous ont dit que ce n'est pas leur rôle. En fait, les pompiers sont un peu plus sympas, et ils sont un peu plus compréhensibles, mais non, non, les SAMU, ce n'est même pas la peine.
Bon, écoutez, je propose une petite pause.
Oui, d'accord.
Pas longtemps, c'est le temps de deux chansons.
Tu fais là, hey, qu'est-ce qu'il y a? Où sont tes parents? Où est ta maman? Tu ne parles pas, c'est dur pour toi. Bois cette eau, bois, il le faut.
La traversée en fer méditerranée, tant d'eau de corps sinistré, on peut y arriver, on va y arriver, l'espoir est ancré. Tu fais là, et qu'est-ce qu'il y a? Où sont tes parents? Où est ta maman? Tu ne parles pas, c'est dur pour toi. Et comment t'appelles-tu? T'es-tu perdu? Tes larmes sont sèches, tes yeux en détresse. Bois cette eau, allez, bois, il le faut. La traversée en fer méditerranée, tant d'eau de corps sinistré.
Ah.
Tuea donde 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 undap Tuea undap Tuea donde 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 undap Tuea undap Tuea donde 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 undap Tuea undap Tuea donde 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 undap Tuea donde 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 onda Tuea onda Tuea donde 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 onda Tuea onda Tuea donde 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 Tuea donde 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 Tuea donde Tuea donde
On, on continue, alors d'accord, ok.
Voilà, vous êtes en direct, je vais présenter ce qu'on a entendu. On va saluer Anne, voilà, qui vient de nous donner un super bonjour. Et puis, on vient d'entendre bien sûr le disque Paris au jazz. On a entendu deux chansons successives, qui a permis un petit peu de souffler, hein, parce que vous avez... il y a plus d'une heure d'émission maintenant, hein. Voilà. Et puis, donc, on a entendu La Traversée et puis Ono 1. Voilà. Ah, il fallait écouter les paroles. Hein. Voilà, des deux chansons. Paris au jazz. Voilà. Très bon compact disque.
Alors, nous venons d'avoir, pendant cette pause, un témoignage d'une auditrice qui nous a fait part de son expérience. Elle a, en fait, une intervention d'aide à domicile chez elle. Et elle a expliqué comment elle avait été amenée à déclencher cette intervention. En fait, elle a, par l'intermédiaire d'une professionnelle, elle a su qu'il existait la maison des des deux arts, hein, des aidants et des aînés.
Des aînés et des aidants.
Oui, enfin je crois. Et en fait, avant, ça s'appelait le CLIC. Ça s'appelait les CLIC. Nous, on a connu ça à notre époque, ça s'appelait les CLIC. Et donc, elle a eu une visite et toute une évaluation pour la mise en place de cette intervention d'aide à domicile. Voilà. Et elle en est très satisfaite. Voilà. Et je lui dis qu'on fera peut-être dans quelques mois une émission justement sur cette maison des deux A et sur les difficultés à monter des dossiers. Ça fera probablement l'objet d'une future émission et peut-être que Anne pourra nous rejoindre pour témoigner.
Oui, voilà.
Merci Anne de ton appel.
D'accord, je ne sais pas comment on peut... Oui, tu as ses coordonnées, Cécile ? Oui, pour la rappeler, d'accord. Bien sûr, oui, si les auditeurs ont des souhaits à émettre sur des thèmes d'émission, bienvenue, hein, ils contactent Radio Libertaire qui nous transmettra, ou ils le disent pendant le... courant de l'émission et voilà, notre émission a laissé de faire connaître le champ du travail social et les pratiques de terrain. Nous revenons donc à notre émission qui porte sur l'aide à domicile, donc avec Marisa qui travaille dans une entreprise d'aide à domicile. Alors, nous avons vu ce qui se passe, hein, dans les difficultés, quand même, souvent importantes, pour les personnes aidées, pour les personnes qui aident, professionnelles. On ne va pas en parler aujourd'hui, mais pour les aidants, qu'on appelle les aidants, les personnes de l'entourage aussi, parce que ce n'est pas les professionnels extérieurs qui peuvent, remplacer aussi l'entourage qui peut être nécessaire et de façon très très importante auprès de personnes qui ont perdu leur autonomie. Hein. Alors Marisa, qu'est-ce que... Tu pourrais rajouter, pas s'il y a des choses à rajouter par rapport à ce que tu as dit sur ce qui se passe sur le terrain, avant d'en venir aux luttes qui se passent aussi, pour essayer un petit peu de faire évoluer la situation.
Déjà, pour en revenir à ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à ce qui se passe sur le terrain, c'est vrai que c'est pas évident déjà, non seulement pour les personnes qui travaillent, chez ces bénéficiaires, parce que nous on les appelle les bénéficiaires.
D'accord.
C'est pas évident pour elles parce que, vu les conditions, elles ont souvent des mauvaises conditions de travail. Comme je le disais tout à l'heure, c'est beaucoup plus en termes planning, en termes timing. Mmh. Elles passent beaucoup plus de temps en fait dans les transports. On va regarder dans les transports qu'au domicile même des bénéficiaires. Et ça fait que quand elles arrivent au domicile des bénéficiaires, elles n'ont pas toute leur capacité, moi je dirais, hein, elles n'ont pas toute leur capacité justement de pouvoir faire la mission qui leur est demandée. Donc ça, il faudrait revoir ces conditions-là. Pour les aidants également, c'est vrai qu'il faudrait revoir aussi au niveau des missions, des demandes.
Oui. Pour eux-mêmes aussi,
pour eux-mêmes,
tiennent,
c'est ça.
Qu'elles
tiennent vraiment ces demandes-là, parce que c'est vrai qu'ils ont souvent, ils ont à soi des demandes, mais souvent ce n'est pas fait déjà comme il faut, ou pas du tout, hein. Pas du tout fait comme il aurait voulu que ça se fasse. Donc, comme je le disais, il faudrait peut-être aussi qu'on puisse envoyer des personnes qui soient beaucoup mieux formées pour faire en sorte justement que ces personnes qui puissent être aidées à leur domicile puissent être tout à fait satisfaites justement par rapport à ça. Donc, moi, je le répète, c'est vrai que c'est pas facile, que ça soit pour les uns que pour les autres, hein. Parce qu'on a beaucoup de plaintes, que ça soit au niveau des personnes aidées, que des aidants elles-mêmes qui nous appellent. Donc les services à domicile doivent faire très attention par rapport à ça et doivent être à l'écoute, parce que c'est quand même un coût. Si la personne veut rester au domicile et qu'elle paye pour justement pouvoir rester à son domicile, c'est pour qu'elle puisse être traitée de manière quand même assez humaine.
Et puis même, voilà. Oui, bien sûr.
Donc on doit quand même faire les choses correctement. Et puis aussi pour les personnes qui vont sur le terrain, écouter aussi ces personnes-là, puisque c'est elles qui vont au domicile. C'est elles qui vont au domicile, c'est elles qui nous rapportent justement les difficultés qu'elles vivent à leur domicile, au domicile des bénéficiaires. Et c'est par rapport à ça, on pourrait améliorer justement les choses, justement, par rapport aux difficultés qu'elles rencontrent, tout simplement. Donc, moi, c'est ce que je reprochais justement à l'entreprise dans laquelle je travaille. Ils ont du mal, en fait, à comprendre que c'est pas eux, en fait, qui font tourner l'entreprise. C'est les personnes qui sont sur le terrain, déjà, qui font tourner cette entreprise-là. Parce que si demain, ces personnes ne vont pas travailler, que ça soit nous-mêmes qui sommes là aujourd'hui, nous, on n'est pas payés. Donc, faut quand même leur donner quand même un minimum de respect, que ça soit déjà pour leurs conditions de travail et aussi des salaires décents, en fait. Parce que je pense que si elles avaient des salaires décents, elles allaient déjà allaient déjà avoir moins de turnover, parce que le turnover vient de là.
C'est essentiellement ça. C'est
voilà.
Le salaire,
tout simplement, voilà.
Ouais,
et les conditions de travail.
Les conditions de travail, concomitamment ou après, déjà le salaire, tu l'as dit, le SMIC pour les aides à domicile et un petit peu plus
pour les auxiliaires de vie.
Mm-hmm. Ouais, c'est ça.
C'est ça. Ouais. Donc, je pense que c'est déjà...
Salaire à temps complet, 35 heures. Hein.
35 heures, ouais.
Mais ce marché-là de l'aide... À domicile, c'est un marché énorme. Je veux dire, en plus, tout à l'heure, on disait l'augmentation de la population vieillissante. J'ai même entendu un mot. J'ai entendu le silver market, quelque chose comme ça. Enfin bon, pour expliquer que ça a l'air d'intéresser beaucoup de multinationales. Mais je pense que ça les intéresse tant que les salaires restent bas.
Exactement.
Parce que plus ils sont bas, plus les bénéfices sont importants.
Bien sûr.
C'est la logique marchande.
Oui, c'est très intéressant pour eux, bien sûr, parce qu'ils prennent une main-d'œuvre, en fait, qui a moindre coût, en quelque sorte. Et pour eux, c'est beaucoup plus intéressant de payer les gens, on va dire, au lance-pierre, mais avoir des bénéfices énormes. Parce que, quoi qu'on dise, ils se font beaucoup de bénéfices dans le service à domicile.
Mais là, c'est mal calculé, parce que, d'accord, ils vont faire plus de bénéfices, mais ils vont perdre des salariés, ils ont du mal à en recruter, il y aura une insatisfaction des personnes aidées, et elles iront se diriger vers une autre.
Aussi.
Donc ils risquent de perdre encore plus de clients.
Mais il y a toujours. C'est ça le problème.
Il y a toujours
des demandes, parce que même.
Il n'y a pas assez d'équipements.
C'est ça, parce que même là où je vous parle, c'est vrai que ça va mal, mais il y a toujours des demandes.
Donc c'est une affaire pour le capitaliste qui investit dans ce genre de société.
C'est très lucratif pour eux.
Ah, d'accord.
C'est très lucratif pour eux.
Je rassure.
Non, c'est. On est dans un cercle vicieux.
Ah, mais carrément.
Est-ce que les salariés qui travaillent auprès des personnes en perte d'autonomie, est-ce qu'elles arrivent à se syndiquer pour faire valoir leurs droits et leurs revendications?
C'est ça le drame. Et c'est pour ça qu'on est en train de leur faire essayer de qu'elles puissent prendre conscience justement des droits. Parce que c'est vrai qu'elles ont des devoirs au sein de l'entreprise, mais elles ont aussi des droits. Et la plupart ne le savent pas, en fait. qu'elles ont aussi des droits, elles ont le droit de dire non aussi quand c'est compliqué, elles ont aussi d'avoir des droits de retrait, comme je vous le disais tout à l'heure, si elles vont dans des situations compliquées et qu'elles ne peuvent pas...
Bien sûr, que voilà. Ça va mettre leur santé en danger leur santé,
exactement.
Bien évidemment.
Donc tout ça, en fait, elles ne le savent pas. Et c'est dommage qu'elles ne s'intéressent pas plus que ça, en fait. Parce qu'elles, quand elles voient que c'est compliqué, la seule chose à faire, c'est d'aller ailleurs. C'est d'aller ailleurs, alors que normalement, elles pourraient aussi lutter pour leurs droits aussi au sein de l'entreprise, ce qu'elles ne font pas. Parce qu'elles savent que il y a beaucoup d'entreprises du service à domicile. Si elles quittent aujourd'hui, demain, elles vont trouver ailleurs.
Oui, mais du coup, il y a une liste noire là, pour les salariés. Elles savent que telle entreprise est moins...
Bah oui, je pense qu'entre elles...
Elles doivent communiquer. Elles savent quelles sont les meilleures sociétés.
Elles communiquent entre elles, hein, je pense. Ah ouais. Elles doivent savoir.
C'est la seule petite marche qu'elles ont
pour
améliorer leur
condition. C'est du bouche à oreille. Ouais. Et puis, voilà. Mmh. C'est vrai qu'elles iront peut-être, comme je le disais tout à l'heure, il y en a qui n'ont pas de diplôme. Mmh. Elles vont peut-être plus aller chez d'autres parce qu'elles savent que peut-être chez d'autres, on va plus les recruter. On va peut-être les recruter assez rapidement parce qu'elles n'ont pas de diplôme. C'est pas grave.
Oui.
Mmh. Si elles vont chez d'autres partenaires, ça va être plus compliqué parce qu'eux, là-bas, ils exigent des diplômes. Mmh. Donc ça, c'est aussi du bouche à oreille. Mmh. Donc je pense que même au niveau des salaires et tout ça, elles doivent communiquer et c'est comme ça qu'elles arrivent à jongler. Parce que comme je vous le disais, il y a certaines qui travaillent chez nous et qui travaillent aussi dans d'autres... Elles ont deux employeurs.
Oui,
donc elles font aussi la différence entre les deux, qui traitent mieux l'un que l'autre. Donc elles voient et puis ça peut parler aussi entre elles, en cas de besoin.
Je vais être encore un peu médisante. Est-ce que les employeurs, sachant que ces femmes qui viennent travailler auprès de personnes âgées ou d'handicapés en situation de vulnérabilité, elles aiment leur travail, ils savent qu'elles aiment leur travail, hein, en général, elles font ça par intérêt aussi, pas seulement pour avoir un salaire, mais est-ce que l'employeur, il se dit pas, finalement, elles vont râler parce qu'elles sont pas bien payées, mais comme elles aiment ce travail, elles vont rester.
Il y en a aussi qui jouent de ça. Hein.
Ouais.
Ils jouent de ça parce qu'ils savent qu'il y en a qui sont vraiment... elles sont dans l'empathie. Elles sont attachées aussi, surtout quand ça fait longtemps qu'elles sont dans la société. Elles ont du mal à se détacher déjà de la personne avec qui elles travaillent pour aller trouver quelque part ailleurs.
Donc, et puis, elles savent qu'ils ont eu peut-être 10, 20 personnes différentes au cours de l'année et... Elles n'ont peut-être pas envie non plus qu'il y ait encore quelqu'un de nouveau.
Voilà, exactement, il y a aussi ça. Mmh. Il y a aussi, comment dire, je ne sais pas comment dire ça, mais elles veulent garder aussi, préserver un petit peu cette personne, peut-être en se disant que bon,
ils ont une bonne relation de confiance.
Je ne vais pas encore aller peut-être galérer à trouver autre part, alors qu'ici, non seulement je m'entends bien avec mon client ou mon bénéficiaire.
C'est
former déjà, parce que ce n'est pas facile aussi de former déjà des relations avec une personne qu'on ne connaît pas, que ce soit l'auxiliaire de vie ou bien le bénéficiaire lui-même. Hein.
Oui,
et
tout à
déjà,
fait.
Quand ils arrivent à s'entendre, c'est difficile aussi. Mais ils jouent aussi de ça, les employeurs. Parce que quand ils savent que vous vous entendez bien avec eux, il y en a qui peuvent casser aussi ça.
Ouais.
Ils disent qu'il ne faut pas trop s'attacher.
Ah.
Et c'est ça, moi, j'ai du mal à comprendre, justement.
Ah oui, ça, il faudra qu'on en fasse une émission là-dessus.
C'est beaucoup dans les métiers.
Pas trop s'attacher.
Il faudra qu'on fasse une émission là-dessus.
Voilà, c'est pour ça qu'on envoie de gauche à
droite. Les nourrices, les aides familiales qui gardent des enfants pendant plusieurs années, on leur dit de ne pas s'attacher.
Plus une relation proche, enfin.
Ouais. C'est ce que cherchent, je pense, aussi les familles. Ils sont rassurés quand c'est la même personne qui vient au domicile.
C'est obligé, quand même.
C'est
un peu comme des substituts parentaux, quand même. Enfin, c'est s'occuper au plus près d'une personne, dans ses besoins vitaux, quand même. Peut-être qu'il ne reste pas beaucoup de temps. Marisa, tu nous as parlé un petit peu tout à l'heure, évoqué un petit peu des luttes dans le secteur de l'aide à domicile. Tu pourrais nous en dire ce qui se passe dans ton entreprise, par exemple ?
Nous, justement, en tant que service d'astreinte, Là, ça va faire 4 mois, en fait, qu'on s'est mis en grève depuis le 1er février 2024.
Ah oui, 4 mois.
Ouais, 4 mois.
4 mois, d'accord.
Bon. On s'est mis en grève pour déjà nos conditions de travail.
Oui.
Et aussi pour avoir aussi des salaires un peu plus décents. Vu la charge de travail, comme je vous l'expliquais, que nous on a, puisqu'on travaille effectivement dans la semaine et également les week-ends et jours fériés. Donc normalement, si j'étais pas en grève, je devais travailler samedi, dimanche, lundi. Dans tout ça, en fait, là, on est à la 9e négociation qui n'a pas abouti avec notre patron. Et tout ça, en fait, on l'a mis sur la table. Je pense qu'on a même beaucoup trop attendu parce que ça fait des années que normalement ça dure ces conditions-là. Et c'est pas seulement pour nous aussi, hein, c'est pour nos collègues, eux, qui n'ont pas peut-être le cran aussi de pouvoir taper du poing sur la table et dire que ça suffit. Pour les personnes également qui sont sur le terrain, qui se plaignent énormément, mais je ne sais pas si c'est le luxe de faire grève, parce qu'elles ne peuvent pas faire grève en fait, parce qu'elles savent qu'elles vont perdre de l'argent.
Oui.
Voilà. Donc il y en a, je pense, qui aimeraient aussi être à nos côtés, mais qui ne peuvent pas le faire parce que elles n'ont pas les moyens de tenir. Donc c'est pour toutes ces personnes-là en fait que nous on s'est mis en grève.
Si je comprends bien, la grève elle est suivie par les agents administratifs. Enfin,
c'était essentiellement notre service en fait. C'est essentiellement notre service qui s'est mis en grève.
Dont tu as dépeint les tâches tout à l'heure.
Voilà,
trouver les personnes,
effectivement.
Les professionnels, etc. Faire remonter les besoins, tout ça.
Voilà.
D'accord.
Voilà. Parce que nous, on est 15 personnes au service d'astreinte.
Ouais.
Donc au départ, il y en a 13 qui se sont mis en grève.
Ouais.
Donc deux autres, donc ma responsable et un collègue qui n'ont pas pu se mettre en grève.
D'accord.
Donc les 13, on s'est mis en grève. Voilà.
Ouais, 13 sur 15.
Sur 15, voilà. Et puis au fur et à mesure, à cause de simplement des besoins alimentaires, ils n'ont pas pu tenir jusque-là. Donc au fur et à mesure, ils se sont remis, ils sont repartis travailler. Mais ils nous soutiennent quand même étant sur place, parce qu'ils font souvent des débrayages de temps en temps. Nous, là, actuellement, on n'est que 6.
Vous êtes 17.
On est 6.
6, d'accord.
Sur les 13, il en reste 6 qui ont tenu. Courageusement.
Voilà.
Donc, c'est énorme quand même, comme proportion.
Voilà, donc,
c'est presque la moitié quand même.
Effectivement.
4 mois de grève.
4 mois de grève, oui. Donc c'est à ce stade-là, je ne pense même pas que ça soit même au niveau de... Il faut parler de salaire ou quoi que ce soit. Je pense que c'est plus les convictions que nous avons et par rapport à toutes les conditions que nous déplorons, les conditions de travail que nous déplorons, c'est pour ça que nous on s'est dit, soit les choses changent, soit on ne revient pas à travailler, c'est pas possible. C'est pas possible qu'on puisse traiter les gens comme ça, et surtout que notre employeur, c'est quelqu'un qui est très manipulateur, en fait, qui est quelqu'un qui divise pour mieux régner. Il a fait en sorte, en quelque sorte, que le service administratif de jour ne puisse pas, au départ, tenir compte également de nos revendications, ou ne puisse pas aussi, nous soutenir par rapport à ça, justement, parce qu'il avait peur qu'en s'alliant...
Évidemment, parce que du coup, tout le service ferme, là. Il fonctionne avec l'astreinte de jour, on va dire ça comme ça.
Exactement.
D'accord. L'astreinte, à partir de 17h, c'est votre service qui est en grève.
Exactement.
D'accord. Ok.
D'accord.
Donc, pour le moment, la structure tient...
Oui, il a pu faire tenir la structure en faisant, en ralliant justement nos collègues de jour avec lui. Et c'est elle qui, lorsque nous étions en grève, qui ont tenu l'astreinte en quelque sorte. Donc, ça fait qu'elles avaient la continuité de service.
Elle vous remplace.
Elle nous remplaçait, voilà.
D'accord, ok.
Mais maintenant que les collègues sont revenus à leur poste, là, je pense qu'ils vont, il va les enlever petit à petit. Bon, puisque,
il va les enlever. Excuse-moi, j'ai pas suivi.
Puisque nos collègues, elles sont revenues justement, nos collègues.
Ah oui,
qui,
départ, pardon, bien sûr, ça y est, j'ai compris.
Étaient avec nous dans le mouvement.
D'accord, oui, bien sûr.
Donc là, ils ont repris leur poste. Donc je pense que au niveau de nos collègues de jour, il n'y aura plus de raison pour lesquelles voilà, elles
nous remplacent. Oui, enfin, juste, il faut quand même vous remplacer 6 voilà. quand même.
Oui. Puis, voilà. Puis... Donc, c'est ce que nous, ces derniers temps, nous subissions, en fait, de la part de la direction. Et on a vu aussi au niveau de nos contrats, il y a des choses qui n'étaient pas claires. Tout ça, on a mis ça sur la table.
Oui.
Et c'est tout ça, en fait, qui... C'est un trop plein de choses, en fait, hein, qu'on a laissé...
C'est pas évident. Voilà. Il faut beaucoup de choses. Être formé, rattaché à des syndicats quand même. C'est quand même...
Voilà.
Il y a des moyens, autrement, on peut pas... Enfin,
j'ai toujours été syndiqué. Hein.
Oui.
Ça soit depuis 8 ans, moi je suis syndiqué. J'étais à la CFDT, mais je n'avais pas été satisfaite du tout.
D'accord.
À la CFDT. Donc j'ai quitté la CFDT pour aller à la CGT.
D'accord.
CGT non plus, j'ai pas trouvé quelque chose de. J'ai pas trouvé en fait qui défendait vraiment la cause.
Oui.
Voilà. Et aujourd'hui je suis à la CNT.
D'accord.
Voilà, donc je suis en train de lutter avec la CNT pour pouvoir justement rallier aussi d'autres personnes du service à domicile, notamment celles qui sont sur le terrain également, qu'elles puissent prendre conscience et de leurs droits.
Votre employeur suit une convention collective, applique une convention collective ?
Oui, du service à la personne.
Du service à la personne. Et donc il y a une branche. Des services, comment tu dis, d'aide à la personne.
Oui,
vous arrivez à voir les salariés d'autres services qui ont la même convention collective pour constituer, je ne sais pas comment on peut dire, pas un collectif, mais enfin, vous avez un soutien de services similaires ou vôtres.
Soutien, non. Vous voulez parler de quoi au niveau de
du syndicat,
Oui, je vais dire oui, voilà.
Faisant partie de la même convention collective qui existe depuis 2012, est-ce que vous vous réunissez
au niveau du département, par exemple?
Parce qu'on a plusieurs syndicats, en fait, au niveau de la
boîte. Oui, j'entends bien. Voilà. Mais alors, pour les différents syndicats, est-ce qu'il y a... et puis, est-ce qu'il y a une intersyndicale aussi,
C'est vrai qu'avec il y a la CGT, nous, et puis il y a Sud.
Oui, d'accord.
Qui avons à peu près les mêmes, entre guillemets, les mêmes idées. Mais pas du tout avec CFTC, CFDT,
d'accord.
FO, je pense, y a une autre là,
d'accord.
que je ne maîtrise pas. Donc, oui, en fait, on défend à peu près les mêmes idées. Maintenant, je ne sais pas si on fera bloc commun, parce que c'est vrai qu'il y a aussi un égo des syndicats à l'intérieur. Mais je pense que si on est là pour lutter justement pour la cause des salariés, on doit mettre...
Qui est la même, enfin,
voilà,
à peu
on doit mettre tout ça de côté.
Voilà.
Alors, il y a des dates, là, prochainement. Il y a une assemblée générale ?
Ah oui, il y a une assemblée générale, normalement, à partir du 24 mai. Mmh. Ça sera la Bourse du Travail,
d'accord.
sur Paris.
Ah oui.
À quelle heure ?
Ça sera à 19h30.
Bien.
Donc j'espère qu'il y aura du monde qui viendra, et ben justement pour déjà qu'on puisse
échanger
ensemble et puis pouvoir voir comment faire justement pour les prochains jours pour les grèves, pour la grève qu'on continue. Et pour ceux qui pourront nous donner aussi des conseils pour tenir encore longtemps au niveau de la grève. Et si on peut rallier aussi, parce qu'on voulait aussi qu'il y a certains participants comme des aidants, comme
oui.
tu en parlais tout à l'heure,
ouais.
puissent participer et venir également témoigner. On va essayer de voir si les aidants et les auxiliaires de vie aussi, parce que c'est aussi important qu'elles puissent aussi donner leur
tout
mot.
Tout est lié,
voilà.
bien sûr. Mmh. Il y a une...
voilà. Donc, ça serait bien aussi qu'on ait beaucoup de participants dans ce sens-là. Et on verra aussi par la suite on pourra faire un levée de fonds pour nous, les grévistes qui restons, qui restons et...
Des quoi, excuse-moi, je suis un peu...
Un lever de fond.
Ah oui, bien sûr.
Il y a une cagnotte, hein, qui a été mise en
place. Oui, d'accord.
Oui. Il y a une cagnotte qui a été mise en place, donc justement,
on peut également... Tu peux donner des informations même sur... Enfin,
c'est une caisse de solidarité nationale.
Oui. On a vu ça avec... Il y a certains syndicats qui nous soutiennent par rapport à ça. Notre syndicat, la CGT et la CNT.
D'accord.
Et on peut également aller sur Internet, voir Mouvement Gréviste, pour voir l'actualité de ce qu'on fait en général, et puis si on veut rentrer en contact avec nous.
Alors, tu peux dire un peu sur Internet, pour les auditeurs.
Sur Instagram, c'est Mouvement Gréviste.
D'accord.
Voilà.
Ok.
Moi, je voulais faire un petit retour en arrière par rapport à l'intervention de l'auditrice Anne. Hein, c'est pour repréciser que les personnes qui cherchent des renseignements, justement, soit parce qu'elles sont concernées elles-mêmes, soit parce que c'est l'entourage qui est inquiet, ils veulent des précisions sur la mise en place d'une intervention à domicile, donc ils peuvent faire appel à la... À Paris, ça s'appelle la Maison des aînés et des aidants. En province, ça peut porter un autre nom. Moi, je connais le CLIC comme nom. C'est Centre Local d'Information et de Coordination. Ça peut s'appeler aussi Pôle Autonomie ou Pôle Info Senior. Voilà. Et ce sont donc des équipes qui peuvent mener une évaluation, déterminer les besoins... voilà, donc n'hésitez pas. Et pour avoir leurs coordonnées, il y a sur le site pour les personnes âgées .gouv, donc pour, je crois qu'il y a des traits d'union entre chaque mot, il y a un annuaire des points d'information et même des plateformes de répit aussi, parce qu'on n'a pas parlé beaucoup des dents, mais bon. Et il y a un petit encadré, je ne sais pas si on dit ça comme ça, où il y a marqué si vous êtes dans une situation d'urgence, pour mettre en place des services d'aide et de soins à domicile, ou pour organiser une sortie d'hospitalisation, ou pour trouver un établissement d'accueil. Donc là, il faut cliquer sur ce petit carré, là, et vous avez plus d'infos. Voilà. Donc ça, c'est une première chose. Et je sais pas si on a encore un peu de temps. Je voulais parler aussi de deux documentaires qui passe sur Arte. Bon, j'ai pas d'action chez Arte, mais donc il y en a un qui va passer prochainement le 25 mai. C'est un documentaire de Laurence Deleur et de Nathalie Amselem. Elles ont filmé en 2019 et 2021 trois aides à domicile et auxiliaires de vie dans la ville de Thionville, enfin dans les environs, dans la campagne, etc. Je l'ai vu presque en entier. Là, c'est assez poignant. Et voilà, donc ça montre ces personnes qui sont filmées dans leur
quotidien.
Ouais, voilà. Et il y en a un autre qui est un documentaire de François Chilowicz, Chilowicz, toujours sur Arte, qui s'appelle Aide à domicile, les temps modestes. Là, c'est un film, ça filme le quotidien de trois femmes qui exercent en Moselle. Alors, j'espère que j'ai pas confondu, que c'est pas, je vous ai pas parlé du premier ou du deuxième. Là, excusez-moi, j'ai un doute, là. Enfin, bref, les deux sont intéressants. Voilà, sur Arte, et vous pouvez les voir en replay. Voilà. Il y a aussi, mais ça a plus un rapport avec les EHPAD, mais le livre Les Fossoyeurs, qui était paru il y a quelques années, là, qui décrivait les conditions de vie dans un EHPAD du père du journaliste. Voilà. Ou de la mère. Oh là là, c'est grave, faut que je me recouche. Voilà, de Victor Castanet.
Oui, donc il nous reste 5 minutes. Oui, donc tu nous as dans une assemblée générale, donc le 24 mai, à la Bourse du Travail à Paris, rue du Château d'Eau, qui est ouverte.
Oui, c'est ouvert à tout le monde. Tout le monde peut venir
à 19h30.
À 19h30,
d'accord,
voilà.
Sans doute dans la grande salle. Ce sera affiché. Hein,
oui, ça sera affiché. De toute façon, ça sera affiché à l'arrivée.
Oui, bien sûr.
Donc on pourra, voilà, il n'y a pas de souci.
Bien sûr. Et puis, donc, tu as indiqué tout à l'heure le site qu'on peut consulter sur Instagram.
Instagram, oui, Mouvement Gréviste, @ Mouvement Gréviste.
D'accord. Ouais. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter là où vous en êtes un peu c'est, vous continuez la lutte?
On continue la lutte. Mmh. On est toujours bien entouré, puisqu'il y a toujours les militants qui nous soutiennent, comme... au début, on a eu AG Féministe, on a oui. eu RP, on a eu également LFI, le parti politique qui nous a beaucoup soutenus au départ. Donc, je remercie même d'ailleurs M. Coquerel, que ce soit Mme Rachel Kéké, qui était beaucoup présente lors de nos piquets de grève. À beaucoup de reprises, elle est venue nous soutenir. Et justement, en parlant justement tout à l'heure de films, il y a eu un film qui est sorti il n'y a pas très longtemps, justement, sur les femmes de chambre. Je ne sais pas si vous avez entendu
oui.
parler.
Alors, je voulais aller le voir. Bon, voilà. Oui. C'est avec.
Voilà, mais c'était pas c'est pas Madame Rachel Kéké qui est là, mais c'était c'est son histoire, c'est l'histoire de
D'accord,
ses.
D'accord, oui,
voilà.
Ça m'a parlé de
justement la grève des femmes de chambre à Ibis.
Oui, 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 oui.
Et nous on a eu la chance de le voir en avant-première, et ça nous a donné des idées également pour nous, notre mouvement. Parce que ça s'est soufflé un petit peu, et puis c'est vrai que le fait qu'on soit parti et qu'on ait vu également ces intervenants ce jour-là, ça nous a aussi donné d'autres idées pour pouvoir remettre le mouvement encore un peu plus fort.
En fait, ouais. vous êtes une poignée, mais vous êtes en lien avec des organisations. J'ai même entendu que vous étiez allé à l'Assemblée nationale.
Oui, oui, on est parti à l'Assemblée nationale, et c'est ce qui nous a permis justement d'avoir tous ces toutes ces personnes-là, que ce soit Madame Kéké, que ce soit Monsieur Coquerel, qui nous ont beaucoup aidés au départ de notre lutte. Voilà. Donc je tiens vraiment à remercier toutes ces personnes-là.
Et nous tenons à te remercier vivement pour ton témoignage, surtout que tu étais toute seule, tu n'as pas eu de renfort autour de toi. Voilà, il va falloir qu'on lâche l'antenne.
Oui, alors je voulais dire quand même juste en deux mots. Bon, on a vu le secteur de l'aide à domicile, les problèmes qu'il a, avec l'entreprise où travaille Marisa, mais c'est pas la seule... La seule structure en difficulté. Dans l'ensemble du travail social, c'est la crise. Manque d'effectifs, faible salaire, turnover, manque de sens du travail. Enfin, c'est des choses dont on parle ici. Y a notamment des luttes menées dans le cadre d'un collectif qui s'appelle la Commission Mobilisation Travail Social, avec des structures dans pas mal de départements et dans la région parisienne. Donc, il y a la Commission Mobilisation Travail Social Île-de-France qui soutient aussi votre lutte. Il y aura, surtout pour les travailleurs sociaux, une autre journée nationale d'action, le 4 juin prochain. Voilà. Si les auditeurs, ceux qui sont intéressés, ils vont sur le site Commission Mobilisation Travail Social, en général, et Île-de-France, voilà, Google, ils auront les dernières informations sur les modalités de cette journée, qui est un appel à la grève, j'ai compris, du secteur public et privé, travailleurs sociaux, avec manifestations, voilà.
Donc, notez bien sur vos agendas, le 4 juin.
Voilà. Bon, Guy, notre technicien, notre émission peut s'arrêter là.
Oui, très bien, merci.
Très bien.
Merci à vous.
Merci.
Merci.
Merci,
bonsoir.
Quel que soit votre agrément, mon cœur s'anime en vous voyant. Ne me condamnez pas, écoutez-moi. Je frémis à la pensée, que de furtives échappées auxquelles j'ai consenti vous ai blessé. Comment vous faire comprendre, comment vous faire entendre l'attrait que j'ai pour vous, rien que pour vous. Ne cesse de me tourmenter, je ne sais où aller, dans votre danse ou à côté. Alors, en attendant que de meilleurs sentiments vous animent à mon égard, vous souffrirez, j'en ai l'espoir. Quand d'autres bras je puisse choisir. Oui. Pour vous, rien que pour vous. Ne cesse de me tourmenter, je ne sais où aller, dans votre danse ou à côté. Je puisse choisir, quand d'autres bras je puisse choisir.